Mehdi 1, Karima, Matin Famille.
Et comme convenu, nous sommes en direct avec le docteur Atmane Lorabié, qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Aujourd'hui, ensemble, on s'intéresse aux troubles anxieux, on les définit, on fait le tour des symptômes, des éléments déclencheurs de ces troubles anxieux, et on voit surtout comment on peut les dépasser ou les atténuer. Docteur Atmane Lorabié, bonjour, un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui.
Bonjour Karima, tout le plaisir est pour moi et j'adresse bien sûr mes salutations aux auditrices et auditeurs de la chaîne.
Merci beaucoup docteur. Alors pour mettre les auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement un peu plus dans le bain, les troubles anxieux c'est quoi ?
Les troubles anxieux, cela désigne une grande famille de troubles mentaux, troubles psychiques, c'est la même chose. Donc une grande famille qui va comprendre les phobies dont on a déjà parlé, les phobies spécifiques, le trouble anxiété sociale, le trouble panique, l'agoraphobie, le trouble anxiété généralisée. La liste n'est pas exhaustive, il y en a un peu plus. Donc et qui vont tous se caractériser par le fait qu'il y ait une réponse anxieuse face à une situation où normalement il ne devrait pas y avoir d'anxiété excessive. Si vous voulez, c'est vraiment ça la définition qui va recouper absolument tous les troubles anxieux. Cette anxiété excessive va avoir des manifestations. Ça peut être de l'angoisse de fond, avec notamment des symptômes physiques, principalement des gènes thoraciques, des gènes abdominales, des douleurs dans le cou, des céphalées chroniques, des petites choses comme ça. Ça, c'est par exemple des choses qu'on retrouve dans le trouble anxiété généralisée. Ça peut aussi être des crises d'angoisse, des attaques de panique, même des crises de tétanie. Quand on parle de... Voilà, c'est une forme de paroxysme anxieux. Si vous voulez, aussi, ce qui caractérise les troubles anxieux, c'est leur extrême fréquence. C'est-à-dire que c'est le trouble psychique... ce sont les troubles psychiques les plus fréquents. On peut dire que 10 à 20% de la population souffre de ce genre de troubles. Donc c'est extrêmement fréquent. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que cela semble aller crescendo au fur et à mesure des décades, etc. Enfin, les études montrent constamment une prévalence qui est croissante, et ça s'est aussi vérifié pendant la période Covid où il y a eu vraiment une multiplication flagrante des troubles anxieux. Donc voici ce qu'on peut dire de la définition et du poids ou de ce que ça représente en termes de troubles psychiques. Après, si vous voulez, on va forcément parler de causalité.
Voilà, exactement. Ces troubles anxieux, justement, sont déclenchés? Quelles sont les causes?
Alors, j'ai envie de dire que, c'est la réalité, c'est toujours multifactoriel. D'accord. Pour le déclenchement d'un trouble psychique, c'est toujours multifactoriel. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont des troubles qui vont surtout intervenir chez des personnes qui ont des tendances à être très prudents, etc. Mais en fait, c'est surtout des gens qui auront, de manière générale, un faible niveau d'activité physique. Alors ça, il y a un parallèle intéressant, parce que l'apport de l'activité physique régulière qui est probablement, c'est un besoin physiologique, le fait d'exercer une activité physique modérée, au moins d'intensité modérée, au moins 3 heures par semaine, ça ce sont les recommandations de l'OMS. Donc en fait ça c'est un besoin, et ça peut s'expliquer d'un point de vue neurobiologique, parce que quand on fait des exercices modérés, par exemple la marche, une marche longue sur une durée supérieure à 30 ou 40 minutes, le corps va fabriquer des substances anxiolytiques. C'est-à-dire que ça va permettre de diminuer notre niveau d'anxiété de manière générale. L'autre aspect un petit peu explicatif, c'est qu'il faut imaginez que notre cerveau est c'est l'une de ses fonctions premières, c'est qu'il doit détecter les dangers et les menaces. Parce que quand on parle d'anxiété, nous parlons du spectre de la peur, la peur en tant qu'émotion humaine. Et si vous voulez, la peur est une émotion qui se manifeste quand notre mental identifie un danger. Et donc, c'est là qu'il y a la peur, c'est ça la réponse anxieuse, à minima, etc. Donc, une fois qu'on considère ça sous cet angle, on peut imaginer et dire que les troubles anxieux, ça correspond en fait à un certain moment à une perception exagérée des risques. Selon qu'on parle de phobie spécifique, cela se vérifie. Quand on parle d'anxiété généralisée, c'est aussi quelque chose où on retrouve toujours des préoccupations et des soucis à toujours imaginer le pire scénario. Donc on surestime les risques. Même en termes d'anxiété sociale, on se dit qu'on va certainement nous juger négativement, etc. Donc si on se dit ça, il est intéressant de comprendre que notre cerveau, donc cette machine à estimer et à gérer les risques, c'est une machine qui est dynamique et qui est plastique. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude de confronter dans la vie de tous les jours plusieurs petits risques, entre guillemets, je serai probablement plus apte à estimer le risque à sa juste valeur. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, je serai moins apte à développer un trouble anxieux. Et là, c'est intéressant parce que on peut dire que l'une des grandes causes d'apparition de troubles anxieux, c'est le fait d'être constamment dans sa zone de confort. On peut l'imaginer sous cet angle parce que quand on est dans la zone de confort, ça veut dire qu'on ne confronte pas de nouveaux risques, qu'on est dans une routine, pardonnez-moi le terme, aseptisée, c'est-à-dire zéro risque. Et donc forcément, à un moment, il va commencer à y avoir, on est beaucoup plus susceptible de développer des troubles anxieux. Donc ça, plus un mode de vie sédentaire, plus, bien sûr, on ne va pas négliger les événements de vie, principalement pendant l'enfance. Et d'ailleurs, il y a des troubles anxieux qui se développent pendant l'enfance, c'est-à-dire quand on parle d'anxiété de séparation, c'est un diagnostic, ou quand on parle de mutisme sélectif, donc les enfants qui n'arrivent pas à parler dans tel ou tel contexte, etc., ce sont des troubles anxieux. Donc, ce sont des choses qui vont aussi pouvoir apparaître pendant l'enfance, et des suites d'événements de vie traumatisants, des négligences par exemple parentales, des séparations, des petites choses comme ça, des petites choses, pardonnez-moi, des événements de cet ordre-là qui gardent une certaine empreinte et qui, si vous voulez, c'est comme si ça nous conditionne à réagir de manière excessive, donc par la peur et donc par l'anxiété, face à des stimuli ou à des situations où normalement il n'y a pas lieu d'avoir autant peur.
Et docteur, est-ce qu'on peut parler de complications lorsqu'il s'agit de troubles anxieux ?
Absolument, et c'est une excellente question, Karima, parce que quand on parle de troubles anxieux, déjà, il faut bien comprendre que quand je parle d'anxiété excessive, c'est quelque chose qui est incontrôlable. C'est-à-dire, on a beau se dire que j'exagère, c'est-à-dire si je parle de moi-même, quand je ne suis pas dans la situation, je me dis mais j'exagère, mais pourtant il n'y a pas de danger, etc. Et puis quand je vais me retrouver dans la situation, ça va être plus fort que moi, je vais avoir très peur, je vais avoir les symptômes physiques, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire l'apparition le fait qu'il y ait des maladies qui se surajoutent, de comorbidités addictives, parce que justement les personnes cherchent à ce qu'elles puissent diminuer leur anxiété et vont pouvoir se diriger vers des médicaments en automédication qui vont donner lieu à des dépendances physiques ou à des consommations d'alcool ou à d'autres drogues. Ça, c'est une comorbidité extrêmement fréquente, surtout quand on regarde sous l'angle de la dépendance à l'alcool. Autre comorbidité extrêmement fréquente, c'est la dépression. Parce que quand il y a un trouble anxieux qui n'est pas reconnu, qui n'est pas diagnostiqué et qui n'est pas traité, c'est quelque chose qui s'installe et qui dure dans le temps. Et si vous voulez, le cerveau réellement va souffrir de ce trouble anxieux et donc va... il y a de très grandes chances de développer une dépression qui va impacter encore plus la qualité de vie de la personne. Hein, donc ça, ce sont les principales comorbidités des troubles anxieux.
Donc ça peut aller encore plus loin. Et docteur Atmal Lorabi, pour les traiter, ces troubles anxieux, pour les atténuer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le traitement adéquat ?
J'ai envie de vous dire qu'il y a trois grands volets qui sont d'importance un peu variable.
Hein.
Les médicaments, c'est quelque chose qu'on réserve quand il y a vraiment une souffrance physique, une comorbidité qui s'installe, etc. Donc là, à ce moment-là, on met un traitement médicamenteux. Quand il y a des choses qui sont insoutenables, comme les attaques de panique de manière récurrente, etc., là aussi, on doit mettre un traitement. Mmh. Mais si vous voulez, les deux autres grands volets qui sont importants, c'est la psychothérapie. La psychothérapie, parce que il faut aussi pouvoir comprendre d'où ça vient et apprendre à confronter les situations qu'on reconnaît volontiers comme étant normalement non dangereuses. Donc, il y a plusieurs types de psychothérapie. Ce qui est en vogue en ce moment, c'est la thérapie cognitive comportementale pour les troubles anxieux, mais aussi quand on est dans une démarche dynamique de changement de soi, même dans une psychanalyse ou autre, eh ben, on est forcément face à la sortie de sa zone de confort, hein, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on cherche volontiers à changer un petit peu les choses. Et l'autre grand volet, ce qui est important, et c'est le message principal peut-être, c'est la routine de vie. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut changer. Et là, je reviens à l'importance d'avoir de l'exercice physique régulier, et je reviens à l'importance d'avoir des activités de loisirs qui comportent un minimum de risque, mais de risque mesuré, etc. C'est comme ça qu'on apprend à notre, enfin qu'on rééduque quelque part, pardonnez-moi l'expression, qu'on rééduque notre cerveau à rester calme face à un risque et peut-être même y prendre du plaisir. C'est pour ça que je parle d'activité de loisir et donc d'être moins susceptible d'avoir des troubles anxieux, parce que l'autre élément principal quand on parle de troubles anxieux, c'est que d'un point de vue psychologique, on retrouve chez la majorité des gens une faible estime de soi. Parce que on se dit qu'on n'est pas capable d'affronter des choses que les gens habituellement arrivent à confronter sans problème. C'est d'ailleurs la définition du trouble anxieux. Et donc, une fois qu'on est dans ce cercle vicieux de la perte d'estime de soi, l'autodévalorisation, etc., et surtout s'il y a une dépression qui s'ajoute, enfin, les choses s'enveniment. Donc c'est très important d'avoir une routine de vie qui comprenne obligatoirement de l'activité sportive, et puis idéalement une activité de loisir qui comprend un certain risque. Quand je dis activité qui comprend un certain risque, à mon sens, faire du théâtre, c'est une activité de loisir qui comprend un certain risque, parce qu'on se donne en représentation, on s'expose au regard de l'autre, etc. etc.
Et on sort de cette zone de confort dont vous venez de parler.
Absolument. On n'est pas en train de parler de sport extrême. On est en train de parler de choses qui nous sortent de notre fonctionnement habituel.
C'est noté, docteur Atman Lorabi. C'était encore une fois un plaisir d'échanger avec vous. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Et à jeudi prochain, Inch'Allah.
À jeudi, au revoir, madame.
Au revoir.